Interview.
1. Interview sur Erdiwa et aussi aux rencontres de l'écologie à l'issue d'une conférence débat souveraineté alimentaire 2. Tout reste à faire. Autour de la table, nous avons Julie Dierheimer. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons David Millet.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes paysan au sein de la Confédération Paysanne. Désolé pour vous, Julie, je vous ai oublié de mentionner donc votre structure à laquelle vous participez. C'est donc le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et vous êtes aussi Terre solidaire.
Tout à fait. Ça s'appelle donc le CCFD Terre solidaire. Et je travaille comme chargée de mobilisation citoyenne avec les réseaux de bénévoles sur la Drôme, l'Ain et l'Ardèche.
Et nous avons aussi Laura Marchelli, engagée sur l'alimentation locale.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et puis nous avons Jean-Yves Morgantini, agronome à la retraite. Et vous étiez également, comme Laura, animateur de cette conférence débat.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Alors, le maître mot de ces rencontres pour cette année, c'est « se relier, rêver, résister ». Est-ce que vous pourrez peut-être nous dire chacun en quoi ces trois mots ou ces trois affirmations résonnent en vous? Je peux commencer par vous, Julie, s'il vous plaît.
Oui, donc moi, j'ai particulièrement, pendant la table ronde, présenté un observatoire qui a produit le CCFD Terre Solidaire, qui s'appelle l'Observatoire de la souveraineté alimentaire. La France à table, le Sud paye l'addition, qui montre en fait, qui analyse les échanges agricoles et alimentaires entre la France et particulièrement les pays les moins avancés, donc ceux qui sont déjà touchés par la faim. Et il met vraiment en lumière les impacts environnementaux, socio-économiques, sanitaires de ces échanges ici et là-bas. À quel point on abîme nos paysans ici et là-bas, à quel point sont les agro-industriels qui bénéficie de ce système internationalisé, à quel point on exploite nos terres, nos paysans, et voilà, et qui met vraiment en lumière ces interdépendances et ces impacts.
Et donc, il y a encore du rêve ?
Il y a toujours des solutions, tout à fait. Et le rapport se termine notamment par toute une série de recommandations à un niveau international, et puis européen, et puis local. International avec une régulation des acteurs économiques, avec plus de démocratie. De démocratie alimentaire, plus de reprendre la main sur nos systèmes agricoles et alimentaires, que les citoyens, les paysans puissent reprendre la main. Voilà, donc il y a beaucoup de solutions qui sont apportées et des belles initiatives qui se font.
David Millet, vous-même paysan, Confédération Paysanne, il y a aussi en ce moment cette vague de protestations pour notamment l'élevage bovin, caprin même aussi, au vin. Et donc, c'est aussi une certaine maltraitance qui est éprouvée aussi en France, à l'image de ce qui se passe en Afrique.
Mais les éleveurs souffrent beaucoup, oui, en France, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, d'avoir un revenu digne. Nous, c'est pour ça qu'à la Confédération Paysanne, on se bat pour que les agriculteurs puissent avoir un revenu digne, en fait. Un peu comme il existe le SMIC pour les salariés, ben nous, on pense que les produits agricoles devrait pas s'acheter, devrait pas pouvoir être vendu à un prix en dessous d'une valeur qui permet de rémunérer le producteur, de payer ses cotisations et ses cotisations sociales et de vivre dignement et de continuer à produire. Et effectivement, il y a eu là, donc il y a beaucoup de ces derniers temps de mobilisation du secteur des paysans contre l'abattage total dans le cadre de la DNC, donc une maladie qui touche les bovins. Et pour lequel il y a une politique sanitaire qui était très, très violente finalement, parce que elle priorisait l'abattage dès qu'il y avait un cas, quoi. Alors qu'on pourrait avoir une politique sanitaire différente en priorisant la vaccination et procéder différemment. Voilà. En tout cas, mais aujourd'hui, à la conférence, ce qui nous a plus préoccupé, c'était les questions de souveraineté alimentaire. Et donc, nous, à la conf, on porte beaucoup un sujet qui est la sécurité sociale de l'alimentation, qui est l'idée de si vous voulez, de faire une transposition de la sécurité sociale à la question de l'alimentation, qui pourrait être une manière de se réapproprier le sujet de l'alimentation, que chaque citoyen puisse avoir une main et son mot à dire sur qu'est-ce qu'on consomme et comment cela est produit.
Jean-Yves, en étant agronome, donc, en quoi consiste votre activité ? Maintenant, vous êtes à la retraite, mais qu'est-ce que permet l'enseignement de l'agronomie ?
L'enseignement de l'agronomie permet déjà de se rendre compte que justement l'agriculture dominante aujourd'hui a complètement oublié les fondements de l'agronomie. C'est-à-dire qu'on est parti sur des techniques qui servent plutôt l'aspect industriel de l'agriculture. Donc on est sur des critères industriels plus que sur des critères agronomiques proprement parlés. Et du coup, c'est ce qui explique qu'on doit utiliser en grande quantité des engrais, des pesticides, au lieu de respecter les données agronomiques qui nous permettraient de produire tout autant, de meilleure qualité et sans apporter toutes ces pollutions. Et donc c'est cet aspect-là qu'on souhaiterait pouvoir faire passer dans cette idée de souveraineté alimentaire, parce que la souveraineté, elle est clairement au départ attribuée aux différents peuples. Chaque peuple doit pouvoir décider lui-même. Et les peuples aspirent à une alimentation plus saine, plus locale et qui soit respectueuse de l'environnement.
Julie Dereimer, par rapport à cette souveraineté alimentaire, qu'en est-il aujourd'hui dans ces pays à laquelle vous agissez ? Est-ce qu'il y a eu cette perte aussi de cette souveraineté alimentaire dans ces pays ? Et puis à savoir aussi, finalement, l'homme vit là où il peut se nourrir. Que reste-t-il de cette alimentation ancestrale dans certains peuples ?
Oui, on voit qu'en effet, à travers ce système, en fait, et nous, la France, on a un impact énorme sur la souveraineté en fait alimentaire des pays du Sud, parce que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte énormément. Donc ça se concentre sur une catégorie de produits assez restreint. On exporte beaucoup de produits transformés et à l'inverse, on importe beaucoup de produits bruts. Donc déjà, on accapare la valeur en fait, tout l'outil de transformation est au nord et donc on accapare la valeur au nord et en exportant, on exporte ces produits qui sont subventionnés, donc qui sont à très bas prix et en fait qui rivalisent en fait avec la production locale. Donc on casse le développement de filières locales parce que les produits locaux ne peuvent plus rivaliser avec ces produits à très bas prix qui entrent sur leur marché. Donc on tire les prix vers le bas et on crée vraiment une dépendance alimentaire en fait de ces pays-là. Et par ailleurs, ce qu'on fait également, c'est qu'on produit, nous, la France, pour exporter, mais par ailleurs, on importe aussi beaucoup de ces pays-là et donc on les mène vers une spécialisation agricole où eux-mêmes ne produisent plus pour se nourrir, mais ils produisent pour exporter vers chez nous. Donc en fait, sous couvert de « tu nourriras le monde » parce que c'est ce que la France dit et prétend être, avec une politique, une loi d'orientation agricole qui va vraiment dans ce sens-là, qui veut être reconquérir les marchés mondiaux, produire pour exporter, sous couvert de nourrir le monde. En fait, on ne fait que aggraver la pauvreté et on empêche les pays du Sud, justement, de développer leur propre politique de souveraineté alimentaire.
On a cet exemple du cacao avec la Côte d'Ivoire. J'avais reçu il y a quelques années une personne qui me disait qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de travailler autre que le cacao. C'est pour ça qu'il en est parti de ce territoire de Côte d'Ivoire.
Oui, tout à fait. Ouais, ça fait partie des produits bruts qui arrivent et qui les producteurs sur place ne gagnent absolument pas leur vie. Et après, ce sont des produits qui, une fois transformés, bien sûr, ont énormément de valeur et qui montent en bourse, etc. Et voilà, donc c'est un système totalement asymétrique et injuste.
La monoculture, donc. Et justement, David Millier, vous, en tant que paysan, à l'exemple de ce qui était dit, c'est-à-dire de tirer le coût de production vers le bas, ça vous démunit aussi dans votre exploitation, dans celle du monde paysan en général ?
C'est sûr que tous les produits importés favorisent la mise en concurrence des paysans les uns avec les autres. Et nous, c'est pour ça qu'on est assez vigilant là-dessus. Et il y a une mesure que la Confédération paysanne propose, c'est les prix planchers. C'est-à-dire, c'est le principe, c'est de dire, OK, on n'est pas contre l'importation de produits agricoles d'autres pays, mais on voudrait que, à l'entrée en France, il y ait des droits de douane qui fassent que le produit qui entre, eh bien, il y ait des droits de douane qui fassent que il arrive sur le marché, si vous voulez, français, au prix, pas en dessous du prix de revient auquel un agriculteur français peut le produire. Alors, effectivement, ça semble comme ça une mesure qui peut paraître, un peu difficile à mettre en place, mais ça demande tout un travail pour après définir quels sont les coûts de production, les coûts de revient, et on ferait un coût moyen, et donc un prix moyen minimum qui pourrait être appliqué, mais qui permettrait au moins qu'on ne tire pas en permanence les prix vers le bas. Donc oui, ça nous impacte en permanence la question des produits importés et le dumping qui peut être fait avec d'autres pays qui, des fois même dans l'Union européenne, qui font venir de la main-d'œuvre qui ne paye pas ou qui traite dans des mauvaises conditions et qui font que ils peuvent proposer un produit avec des prix très bas, comme la tomate en ce moment qui arrive du Maroc ou d'Espagne, et pour laquelle, même si c'est là pendant l'hiver, les tomates sont importés. Et par exemple, on parlait de la tomate Azura, là, qui sont des petites tomates cerises dans des boîtes, qui sont vendues 1 euro, 2 euros, qui sont pour 500 grammes, ce qui est complètement délirant, parce qu'en plus, alors en ce moment, il n'y a pas de tomates. De toute façon, en France, les producteurs de tomates ne sont pas en concurrence. Mais au-delà de plein d'autres problématiques que ça pose, la production de ces tomates-là, c'est que ça met dans la tête des gens qu'en fait, les tomates, ça ne coûte rien. 1 euro, la barquette, 2 euros. Et après, ils se disent, mais pourquoi moi, en plein été, alors qu'il y a plein de tomates, je vais les payer 3-4 euros. Moi, mes tomates, je les vends, par exemple, 4,50 euros, 5 euros le kilo. Donc voilà, les gens sont plus prêts à payer ce prix-là parce qu'ils ont été habitués à payer des prix ridiculement bas.
Il y a aussi cette notion de faim à laquelle CCFD, Terre solidaire, prend part donc à combattre cette faim et pour un développement. Alors, qu'est-ce que vous préconisez justement pour éviter cette faim ?
Oui, alors je voudrais juste peut-être revenir rapidement sur l'histoire de la tomate au Maroc pour dire en plus de faire concurrence à nos agriculteurs sur place pour une tomate low cost à très bas prix, qui concurrence notre agriculture, nous, locale en France. La tomate du Maroc, déjà, c'est détenu par des capitaux européens alliés avec des hommes d'affaires agro-industriels français et marocains. Et sur place, il y a un impact énorme de cette production de tomates, puisque c'est un stress hydrique énorme avec des nappes phréatiques, avec un pays qui souffre déjà d'absence d'eau, et donc on construit des usines d'eau de dessalement d'eau de mer. Des pesticides, on exporte vers le Maroc comme vers beaucoup d'autres pays des pesticides qui sont interdits en Europe, donc on les exporte vers ces pays-là pour qu'ils puissent justement produire ces monocultures. Et puis c'est des conditions de travail précaires, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des tomates qui coûtent quasiment rien quand elles arrivent chez nous. Des conditions de travail très précaires et essentiellement féminines, avec des femmes qui n'ont aucun droit, qui sont réprimées, etc.
Votre action pour le développement, en quoi consiste-t-elle ?
Nous, le CCFD n'est absolument pas contre qu'il y ait des échanges des mondiaux, mais en fait, il est pour plus de qu'on arrête vers la, non, on n'arrive pas vers la compétitivité, mais qu'on soit sur de la solidarité, de la complémentarité, qu'il y ait une réciprocité en fait dans ces échanges, et on lutte pour faire entendre le vrai sens de la souveraineté alimentaire, qui est le sens tel que défini par l'ONU, où il y a vraiment une idée que les populations définissent elles-mêmes leur politique agricole, et on lutte contre cette définition du gouvernement qui est dans une logique compétitive. Donc c'est un accès par les droits, une approche solidaire, que notre souveraineté alimentaire ne se fasse pas aux dépens des autres, et une approche démocratique.
Et David Millier, il y a une présence, je crois qu'il y a 3 postes au sein de la Chambre d'agriculture de la Drôme. La Confédération paysanne, quelles sont ses marges de manœuvre au sein de cet organisme ?
Oui, donc la Confédération paysanne, on a un syndicat dit représentatif, parce qu'on remplit certain nombre de conditions par rapport à l'administration, enfin à l'État. Et donc on participe aux élections à la Chambre d'agriculture, qui sont des élections professionnelles pour élire ce qui devrait être un petit parlement du monde agricole, donc au niveau départemental. Donc ça s'appelle la Chambre d'agriculture, où siègent à la fois des agriculteurs, mais aussi des représentants des salariés agricoles, des représentants des retraités du monde agricole, et également les banques et les propriétaires fonciers, et les gestionnaires forestiers aussi. Voilà. Et donc, les élections ont eu lieu en janvier 2025. Donc effectivement, on a fait un score qui est plutôt dont on peut être satisfait. On a en gros un agriculteur sur trois dans la Drôme a voté pour la Confédération paysanne, mais presque 31% pour être précis. Mais on se retrouve avec un rôle ultra minoritaire puisque c'est un mode de scrutin d'ailleurs qui est un peu le même, enfin qui est le même que dans les communes. Et dans les départements, qui est que la liste qui arrive en tête, elle a une prime au premier, et donc elle se retrouve avec énormément d'élus, quel que soit son score, en fait. Et là, en l'occurrence, la liste arrive en tête, ils ont fait 40% des voix, donc pas majoritaire, mais ils ont eu une prime qui fait que, en nombre d'élus, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une majorité des élus, ils ont 13 élus sur 18, et nous, on n'en a que 3, alors qu'on fait 30% des voix. Donc, ça va de pair avec le fait qu'on n'est pas trop entendu, même pas du tout pour être précis, puisqu'on a en face de nous un système hégémonique d'un syndicat qui prend tous les pouvoirs et qui n'a même pas accepté. Par exemple, vous voyez, nous on représente, donc je le répète, un tiers des agriculteurs de la Drôme, et on a demandé à juste avoir une place au bureau, parce que donc à la Chambre d'agriculture, il y a l'Assemblée et puis il y a un bureau exécutif, quoi, comme dans un conseil d'administration, il y a un organe plus exécutif, le bureau. On a demandé à juste avoir une personne au bureau, histoire que on va pas peser sur les décisions, on serait seul, mais on pourrait au moins entendre les sujets, être au courant. Et même ça, ça n'a pas été accepté. Et d'ailleurs, même pour un autre syndicat qui s'appelle la Coordination Rurale, qui a fait un score proche de celui de la Confédération Paysanne, ça a été refusé aussi qu'ils aient une place au bureau. Donc aujourd'hui, vous avez une chambre d'agriculture qui est pilotée uniquement par une tendance syndicale et qui a les mains mises sur tout et qui donc se comporte d'ailleurs en mafia, j'ai pas peur de le dire, en mafia, puisqu'il cherche à tout contrôler et ne laisser de place à aucune concertation avec les autres tendances syndicales. On n'a pas forcément les mêmes idées, mais on pourrait trouver des compromis. Ça, ils n'en ont pas envie.
Julie, je reviens vers vous par rapport à ce que vous opérez dans les pays les moins avancés. Donc, pour eux, qu'est-ce qui reste de cette agriculture ancestrale, traditionnelle ? Et sur quoi vous travaillez pour peut-être ramener un peu cette part d'humanité dans cette agriculture et peut-être aussi de profiter de ce que propose la nature autour de ces personnes ?
Oui, en effet, ce qui est important de préciser, c'est que la particularité du CCF des Terres Solidaires, c'est qu'on soutient des organisations partenaires dans les pays locaux, dans les pays du Sud, des organisations locales. Donc on travaille dans plus de 70 pays et on soutient plus de 500 organisations. Et on apporte un soutien technique, financier, et on fait aussi du plaidoyer où on porte la voix de nos partenaires. Donc on fait avec, mais pas à la place d'eux, et on ne parle pas non plus à leur place. Et donc on travaille dans beaucoup de pays différents, et on appuie ces organisations, et beaucoup, typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des partenaires du Guatemala, qui travaillent justement dans la lutte contre ce modèle dominant, dans la lutte contre les monocultures et l'agrobusiness, et tous ces projets extractivistes et ces politiques de libéralisation qui sont également des politiques néocoloniales, racistes et qui font que ces populations autochtones rurales sont opprimées, sont totalement opprimées dans ce système-là. Et on appuie des partenaires qui vont vraiment travailler à la défense de leur territoire, à la défense de la cosmovision maya, là pour le Guatemala, pour la Mésoamérique, à justement la reconnaissance pour aller vers un État plurinational, pour prendre en compte justement et considérer leur manière d'être leur rapport à la nature, qui est un rapport très important, qui est un rapport sacré, leur vision au niveau leur système éducatif, juridique. Voilà, donc il y a vraiment un travail d'appui à des partenaires qui, sur place, défendent très souvent les populations autochtones rurales qui sont les premières victimes de ce modèle néocolonial dominant.
Jean-Yves, en tant qu'agronome, est-ce que vous prenez part aussi à l'histoire de l'alimentation ?
Oui, c'est même la raison d'être de l'agronomie, hein, puisqu'il s'agit de produire des aliments en premier lieu, même s'il y a des produits agricoles qui sont utilisés sur des secteurs industriels comme le textile ou autre. Mais disons que la principale préoccupation des agronomes, c'est de pouvoir nourrir les populations. Voilà. Mais par contre,
ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous établissez ou vous avez établi un historique de ce qu'est l'alimentation dans les cultures, dans les civilisations ?
Oui, alors il faudrait être historien de l'agronomie pour faire ça. Donc ce serait un métier à part entière. Ce n'est pas vraiment le souci principal de l'agronome, bien que on peut constater que les bases de l'agronomie moderne trouvent leurs racines dans les connaissances agronomiques ancestrales. Mais il faut être prudent avec cette image-là, parce que ça peut être un argument qui se retourne contre une agronomie qui refuse les critères industriels. Et à ce moment-là, cette agronomie est souvent taxée de rétrograde, de retour au temps des cavernes, alors que c'est absolument pas vrai. On a plusieurs choix de modernité en agronomie. Et ces critères de choix sont différents suivant du bord où on se trouve. Hein. Lorsqu'on est sur un bord industriel, on a des critères de choix qui sont plus économiques, qui sont plus de quantité de produites. Et on a l'agriculture intensive que l'on connaît aujourd'hui. Mais on peut très bien avoir une agriculture moderne qui est d'autres critères, par exemple des critères de santé publique, des critères de respect de l'environnement. Et là, on peut développer une agronomie tout aussi moderne, mais dans un modèle différent. Et par exemple, c'est ce qui se trouve aujourd'hui en agriculture biologique, en agriculture biodynamique, en agroforesterie, et permaculture, etc. Ce sont des agricultures modernes.
Et voir trouver aussi un nouveau modèle économique et de distribution. Tout reste à faire. Donc, Laura, par rapport à ton engagement sur l'alimentation locale, est-ce que tu retrouves dans les propos qu'on vient d'entendre un écho sur le Diwa?
Oui, l'idée de la construction de la table ronde, c'était vraiment de parler des enjeux mondiaux, mais aussi de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire localement ou qu'est-ce qui se fait déjà. Et donc voilà, à la fin, j'ai essayé de recontextualiser avec toute l'action de la communauté de communes ces dernières années sur le plan alimentaire territorial, toutes les initiatives que ça a permis, que ce soit les popotes, la caisse commune de l'alimentation, et tout le travail qui est en cours, voilà, le projet du plantier, la restauration collective sur laquelle la communauté de communes a envie de mettre son énergie. Et en fait, ça fait partie des leviers qui sont importants parce que, en produisant plus de repas collectifs sur le territoire, nécessairement, ça va créer une demande au niveau des produits agricoles qui sont produits localement. Et donc, ça va pouvoir permettre de peut-être soit pérenniser, soit permettre une implantation locale de producteurs. Et puis, un peu ce qu'on n'a pas trop eu le temps de développer, mais c'est aussi, il y a beaucoup de filières qui sont en tension localement, que ce soit la viticulture avec Jaillance qui est en grande difficulté, que ce soit les plantes aromatiques. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on fait de notre territoire? Comment on permet la transition ou la transformation de cette production locale? Voilà.
Pour vous, Julie Dreimer, est-ce que pour les pays les moins avancés, est-ce qu'il y a aussi, à l'image de ce qui se fait dans le Diwa, des petites formations de personnes qui essayent de pouvoir aborder une nouvelle manière de consommer? Et est-ce qu'il y a justement ces engagements très locaux qui répondent à une demande de la population?
Oui, et je pense que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que dans beaucoup de pays, justement, les populations autochtones rurales se battent aujourd'hui pour la reconnaissance de leurs droits et pour valoriser ce rapport et ce lien qu'elles ont avec la nature. Et ce sont ces personnes-là souvent qui produisent les aliments. Donc déjà, je pense que les démarches qui se font dans ces pays-là, c'est d'essayer de faire entendre leur voix et d'essayer de valoriser justement cette vision du monde. Et le CCFD Terres Solidaires se bat aussi pour que justement ces populations-là fassent aussi partie des instances de décision, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient entendues.
Et d'où peut-être aussi ce lien à établir entre les structures telles que ce qu'on peut trouver dans le Diwa notamment et dans nos pays moins avancés. Hein. Jacques Marcon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous-même aussi participiez à cette discussion hein, sur la souveraineté alimentaire. Tout reste à faire. Selon vous, qu'est-ce qui reste à faire ?
Recréer du lien, tout simplement, entre le monde agricole, les consommateurs et l'ensemble de la filière. Ce qui reste à faire, c'est, moi je le dis souvent en résumé, c'est retrouver le bon sens paysan. Donc simplement, c'est arrêter d'importer des légumes de l'autre bout de l'Europe alors qu'on peut les cultiver vers chez nous. De toute façon, avec l'augmentation de l'énergie, du pétrole, dans 10-15 ans, ça ne sera plus possible. Donc il faut maintenant réagir. Et puis, avant qu'il soit trop tard, garder nos fermes, surtout dans le milieu de montagne, hein, où c'est assez compliqué. Et voilà, c'est juste ce lien qu'il faut recréer. Et puis surtout, tout passe par le consommateur. Donc faut que le consommateur se réapproprie et apprenne à cuisiner à la maison aussi. Ça, c'est important.
Vous êtes restaurateur, chef étoilé à Saint-Bonnet-le-Froid. Et donc, c'est une entreprise issue aussi de votre père.
Mes grands-parents,
vos 1947. Ouais. Et vous avez ce souci aussi de conserver cette notion de cuisine familiale. Et pour cela, justement, c'est cet appel à retrouver les saveurs, la manière de cuisiner et aussi d'avoir les produits qu'il faut.
Oui, de toute façon, cuisiner, c'est un acte majeur dans la vie. Il faut qu'on reprenne goût à cuisiner, il faut qu'on se fasse plaisir à la maison, dans les ménages, c'est important en famille. Hein, le moment du repas est en train d'être court-circuité un petit peu de partout. Et moi, j'ai passé la matinée avec les bénévoles à faire à manger pour les 150-200 personnes. Et ce n'était pas pour donner des leçons, c'était pour passer un bon moment avec eux. Et il y avait plein de sourires, c'était sympathique. Et voilà, je trouve que c'est important. Et quand on redonne le goût à la cuisine, on donne le goût aux enfants. On le voit, on fait la cantine à Saint-Bonnet et deux fois par mois, on fait un cours de cuisine avec les enfants. On leur apprend les produits, la saisonnalité, on leur apprend des petites techniques qu'ils peuvent faire à la maison. Et ce qui est rigolo, c'est que par exemple, les enfants maintenant, ils grondent leurs parents quand ils font des tomates cerises en janvier. Parce qu'ils disent « Papa, maman, la tomate cerise en janvier, c'est pas la saison ». Donc en fait, tout se passe par la formation, la jeunesse et l'envie de cuisiner, de se faire plaisir.
La nature a son rythme, hein. Il y a des saisons, et puis elle produit en fonction des saisons. Est-ce qu'il y a aussi ce retour à être au rythme de la nature, puisqu'on parle de tomates cerises en plein hiver, on est dans une totale arythmie hein, culinaire. Est-ce qu'il y a aussi une éducation et une pédagogie à opérer ?
La pédagogie, c'est réapprendre la saison des produits. Apprendre à cuisiner l'hiver, c'est peut-être le moment le plus compliqué. Je crois que le mois le plus dur, c'est le mois de mars, parce que le mars, on a épuisé presque tous nos légumes d'hiver. Il reste mes joies légumineuses, les céréales. Il y a plein de choses sympathiques à faire au mois de mars quand même. Après, en avril, le printemps revient, donc c'est autre chose. On a les pousses, les herbes sauvages. Mais chaque mois est assez beauté dans le jardin comme dans les produits sauvages. Donc après, c'est aussi le rôle du cuisinier de mettre ça en avant, de proposer des recettes. Mon père a fait 6 livres de recettes sur les fruits, les légumineuses, les céréales, les champignons, les herbes, avec des recettes assez simples. Voilà, ça passe par là. Et puis on a cette culture quand même du bien manger en France et il ne faut pas le perdre. C'est important. Et si tout le monde garde cette culture, si on se la transmet de génération en génération, comme on avait les petits cahiers avant de nos grands-mères, je pense que voilà, ça sera une partie du travail de fait.
Se relier aussi, c'est être tendre la main aux producteurs, mais aussi aux consommateurs. Et vous, vous êtes donc chef étoilé, vous êtes un référent hein, culinaire. Est-ce que vous êtes en quelque sorte un porte-parole aussi du producteur, mais aussi du consommateur.
Bah, on est un peu le lien entre les deux, quelque part, et on est aussi, même au restaurant, on fait de la pédagogie. Moi, quand je fais de la tomate au mois de septembre, certains clients me disent « mais tu as de la tomate en septembre ?» Bah oui, chez nous, c'est août-septembre, les tomates, c'est pas celle du mois de mai, hors sol et chauffée. Donc il y a aussi encore de la pédagogie à faire auprès de nos clients. Et après, ce qu'il faut, c'est amener de la gourmandise. Parce que, comme un petit épote comme on a fait à midi, si on le cuit juste à l'eau, qu'on l'égoutte et qu'on met une noix de beurre, ça sera pas lié, ça sera pas gourmand, on n'aura plus envie d'en remanger. Donc en fait, c'est former aussi les gens, comme on va le faire avec la nouvelle école des cantines scolaires, c'est d'amener de la gourmandise. Faut arrêter de faire du frites et des croque-monsieur et des pâtes tous les repas dans les cantines scolaires comme nous le proposent les grands de leur restauration de cantine. Et on peut arriver à amener de la gourmandise sur un concombre, sur un brocoli, sur un chou-fleur. Mais encore là, ça s'appelle l'art culinaire et que ce soit dans une cantine scolaire comme en gastronomie, c'est la même chose.
Donc une nécessité de réapprendre le goût. Julie, ça s'observe aussi dans les territoires moins avancés, non ? Il n'y a pas cette culture culinaire ?
Très probablement, si. Je ne suis pas une spécialiste de ces territoires-là. Je peux pas. Et puis, chaque territoire est très, très différent les uns des autres. Après, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui, en termes de variété alimentaire, où c'est beaucoup, par exemple, à base. Pour reparler du Guatemala, où on est allé récemment, c'est beaucoup à base du maïs, d'haricots, etc. Donc il y a un manque de diversité de produits à l'heure actuelle. Mais bien sûr, chaque région a ses spécificités culinaires, ses recettes, etc. Bien sûr.
Je me tourne vers Jean-Yves Morcantini par rapport à l'agronomie. Quelle est cette quête justement du producteur ? Qu'est-ce qu'il veut proposer aux consommateurs ? Et est-ce que ça, il y a eu une persistance dans l'histoire de l'alimentation ? Est-ce que c'est simplement se nourrir ou aussi apprécier la nourriture ?
Je pense que c'est successif. La première préoccupation, c'est se nourrir. Et à partir du moment où on arrive à se nourrir, on peut avoir la préoccupation d'apprécier, etc. Mais justement, les denrées à produire et la qualité des denrées que l'on veut produire, ça fait partie des choix que l'on doit faire dans le cadre de la souveraineté alimentaire. C'est pour ça qu'on souhaite replacer la souveraineté alimentaire au niveau des populations, parce que c'est à elles de choisir ce qu'elles veulent manger, ce qu'elles préfèrent manger et avec quelle qualité, quoi.
Laura, pareil, par rapport à ce que vous proposez, c'est aussi quand même un travail sur le goût, pour le plaisir.
C'était un peu les prémices des popotes au tout début, de cuisiner sur l'espace public, collectivement. C'était réapprendre à cuisiner ensemble, recréer du lien. Et dans la continuité, c'était aussi de pouvoir se dire que avec un repas élaboré à base de produits bio et locaux, avec un coût matière à hauteur de 3 ou 4 euros, on est moins cher que sur un repas ou un plat industriel. Et en effet, en hiver, c'est peut-être pas les moments les plus fun, mais chaque semaine, on a fait des blettes, on a fait des pleurotes, on a fait du petit épeautre, et chaque semaine, on a innové dans les repas qu'on proposait. Et les convives étaient assez étonnés de voir qu'on pouvait faire plein de choses différentes avec le même type de produit. Et s'amuser, en fait, je crois que c'était s'amuser en cuisinant.
Est-ce que on va terminer bientôt sur la résistance, donc résister, ça c'est aussi une des propositions de ces rencontres. Comment opérer une résistance au niveau de l'alimentation mondiale, globale, alimentaire ?
Moi, je dirais déjà en faisant des ponts entre les différents acteurs, et je pense que c'était un peu l'idée de la table ronde, c'était que les producteurs, les paysans, ils sont seuls dans leur coin. C'est un travail difficile et malheureusement, on entend beaucoup parler de suicide ou de situations extrêmement compliquées financièrement. Et donc, c'est de pouvoir aussi les entendre, en avoir conscience et qu'ils aient des espaces pour le dire, qu'ils soient peut-être plus pris en considération par les politiques locaux aussi. Les élus, je pense, ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Et après, évidemment, faire le lien avec les gens qui travaillent ces produits et avec les consommateurs, qu'il y ait beaucoup plus d'informations et de sensibilisation au niveau des consommateurs. Voilà.
Oui, puis je dirais nous, en tant que paysans et en tant que syndicalistes finalement, parce que ben moi je dirais que résister, c'est ne pas baisser les bras, c'est y croire. Nous, on a un projet d'agriculture souveraine qui rémunère les paysans, qui leur donne de la joie de vivre dans leur travail, et puis aussi donc qui permet aux consommateurs d'avoir des produits de qualité. Donc parfois, on a envie de baisser les bras quand on voit les réalités agricoles, quand on voit comme ces idées-là sont peu portées. On est obligé de se battre tous les jours. Alors même si c'est un terme un peu guerrier, entre guillemets, la bataille, le combat, résister, c'est peut-être plus noble. C'est se dire, on baisse pas les bras. On dit souvent que les belles idées, au début, on les combat. Après, on nous écoute. Puis en fait, après, on les autres se les approprient, quoi. Et je pense que... Puis on parlait de patience tout à l'heure. Je crois que c'est toi qui en parlais. Il faut être patient. Petit à petit, continuer à porter les idées. Je parlais de la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a quelques années, et puis Laure en a parlé aussi, il y a quelques années, c'était vu comme complètement en dehors des réalités ou une idée luberlue. Et puis petit à petit, là, il y a des caisses qui sont en train de se monter partout. Il y en a une dans le Diwa, là, qui est en train de se monter avec la Carline, le Silo. Donc petit à... Et bien, en fait, ce qui est... Je pense que le jour où il y aura une alternance et une volonté politique de le mettre en place, ben, en fait, on l'aura expérimenté déjà. On l'aura, ce ne sera pas une idée théorique. Il y aura eu déjà... Tout le monde se la sera approprié, l'aura expérimenté et on pourra la démultiplier et lui donner une autre ampleur.
Pour vous, oui, Jean-Yves.
Et juste pour compléter sur cette idée de résister, pour pouvoir résister, il faut être informé aussi sur ce qui est possible. Et il y a un exemple caractéristique là-dedans, c'est résister, c'est aussi lutter contre la désinformation. Et une idée qui est largement répandue par certains milieux, à savoir que si on n'utilise pas des engrais, des pesticides en quantité, on ne pourra pas nourrir la planète. Ça, c'est typiquement une idée fausse qui est dénigrée par les scientifiques qui font des études qui montrent l'inverse. C'est qu'on pourrait mieux nourrir la planète si on utilisait des agricultures respectueuses de l'environnement, et donc qui seraient utilisables dans tous les pays, alors qu'on ne peut pas utiliser une agriculture intensive dans les pays qui n'ont pas d'argent disponible. Voilà, donc ça c'est la première chose pour résister, il faut avoir une bonne information.
Pour finir, je me tourne vers Jacques Marcon par rapport à cet art culinaire dont vous êtes professionnel. Je suppose que vous avez aussi l'oreille de certaines personnes qui viennent manger chez vous, qui sont peut-être décideurs. Est-ce qu'il y a des politiciens aussi avec qui vous échangez de manière à peut-être trouver des voies de perspective?
Non, je n'ai pas vraiment des décideurs qui viennent manger. Non, parce que je me demande qui est décideur actuellement à la société française. Je ne sais pas où ils sont. Mais non, par contre, j'ai beaucoup de citoyens, de gens qui viennent manger, qui sont de la région pour la plupart. Et puis, moi, j'ouvre souvent le débat sur ces sujets-là. Et moi, je pense que 90% des citoyens, des Français, sont d'accord sur le constat qu'il faut aider nos agriculteurs, qu'il faut consommer local. Je ne connais pas une personne qui est contre ce principe-là. Et après vous avez des lobbies, vous avez des influences qui font qu'on n'y arrive pas à mettre les choses en place, mais quand on parle de garder nos terres vivantes, 90% des gens sont d'accord, il n'y a pas quelqu'un qui se dit le matin je me lève pour tuer un sol. Donc c'est juste donner une vision différente au monde agricole, voilà, tout simplement. Après nous, on n'a pas accès au monde des décideurs, c'est le monde d'argent, mais je pense que en tant que chef, quand on a une aura, ou en tout cas qu'on a un petit peu écouté, ben, notre devoir maintenant c'est de parler. Parce que voilà, si on veut bien faire à manger dans les cantines, il faut des bons produits. Voilà, si on veut bien faire à manger dans nos restaurants, il faut des bons produits. Et les gens viennent dans nos maisons pour manger ces bons produits-là. Donc on peut se gargariser en disant « super, on a l'antivers du puits ». Je vais vous donner un détail assez rigolo, c'est qu'en ce moment, il vaut mieux faire du méthane et remplir des méthaniseurs que faire de la lentille du puits. On gagne plus d'argent en faisant ça. Donc si l'avenir de l'agriculture, c'est de faire de l'énergie, du méthane et mettre des panneaux solaires, ça sera dramatique pour la souveraineté alimentaire, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Voilà, donc simplement se battre ensemble, parce que tout le monde est d'accord sur le constat, c'est les 10% qui restent qui nous emmerdent. Voilà, mais ils ne sont pas nombreux. Voilà.
Voilà, l'émission se termine. Je remercie donc Julie Dureimer pour la CCFD Terre Solidaire. Nous avions aussi M. Jacques Marcon, donc restaurateur chef étoilé à Saint-Bonnet-le-Froid, au restaurant Jacques et Régis Marcon. Et puis nous avons David Millet qui représentait la Confédération Paysanne, et vous êtes également paysan. Et Laura, donc engagée sur le territoire pour l'alimentation locale. Et Jean-Yves Morgantini, agronome retraité. Je vous remercie tous de nous avoir donné un peu de votre temps. Et puis j'indiquerai sur la page de l'émission les liens Internet de chaque organisme présenté. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci à vous.
Come on, suicide.